Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, messieurs, bonjour. On s'oriente peut-être vers la concrétisation de la construction des frontières aériennes uniques entre la RDC, la Zambie, le Mozambique, le Zimbabwe et le Botswana. En tout cas, le sujet a été au centre d'une réunion technique hier à Dubaï entre les ministres de ces pays, la ZECAF et DP World. La 13e conférence des gouverneurs se tient début mars à Bandundouville. Du côté de la RVA, Régie des voies aériennes, on s'attelle à améliorer les infrastructures aéroportuaires pour la circonstance. 20 ans de la constitution congolaise, quel bilan? Le sujet était au centre du dialogue entre Congolais hier. Vous suivrez les avis des intervenants. Bienvenue à cette édition du journal. Des postes frontaliers à arrêt unique en vue pour 5 pays africains. Il s'agit de la RDC, la Zambie, le Mozambique, le Zimbabwe et le Botswana. Objectif visé, construire ces postes frontières en vue de les moderniser. En tout cas, cela a été au centre d'une réunion technique hier mercredi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les ministres du commerce extérieur de ces 5 pays, DP World et le secrétaire général de la ZECAF ont échangé sur un modèle de financement destiné à fluidifier le trafic et réduire les aux frontières. Pour le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, cette initiative, lancée en marge du 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, permettra de diminuer les coûts de transport et de rendre les produits plus compétitifs. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Après la réunion d'Addis Abeba, nous nous retrouvons encore une fois ici à Dubaï avec nos homologues de Mozambique, de la Zambie, du Zimbabwe, du Botswana, autour du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, ainsi que notre partenaire DP World, pour continuer les réflexions sur ce que nous avions commencé à Addis Abeba, à savoir la construction de nos postes frontaliers à arrêt unique entre nos pays pour fluidifier les échanges, pour permettre que des longues files de véhicules qui attendaient à nos frontières, ces longues files, puissent finalement se déplace à la célérité. Et donc, nous avons avec DP World qui a accepté l'offre de nos différents pays. Avec DP World, donc, on a échangé sur le modèle de financement. Comment nous allons financer ces infrastructures? Comment on va les moderniser? Comment on va les digitaliser pour permettre à ce que les délais de passage de nos véhicules, qui étaient de 45 à 55 jours entre la RDC et les ports de Dar es Salaam, ces délais puissent être réduits dans un premier temps à 10 jours, à 5 jours et peut-être plus tard à très peu de jours, permettre ainsi que les coûts de nos marchandises puissent être compétitifs sur les marchés internationaux.
De son côté, le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene, a souligné que cette initiative s'inscrit dans l'accélération de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine afin de promouvoir davantage le commerce intra-africain. Une autre rencontre s'annonce ici au pays. Il s'agit des préparatifs de la 13e conférence du gouverneur de province qui se tiendra à Bandundouville du 3 au 7 mars prochain. Raison pour laquelle le directeur général de la Régie des voies aériennes, Louis-Blaise Londolé, a effectué un aller-retour hier mercredi au chef-lieu de la province du Kwilu. Sa visite a pour but de s'assurer de la sécurité et de la sûreté des opérations aéroportuaires. À la veille de cette conférence du gouverneur, a expliqué le directeur général de la RVA. Il a aussi ajouté qu'il est prévu la construction de l'aérogare, l'agrandissement de la piste et des chaussées aéronautiques, ainsi que l'implantation des aides à la navigation et de toutes les dépendances techniques afin de faire de Bandundu un point stratégique de la province pour des échanges commerciaux. Ici à Kinshasa, le contrôle des documents de transport et des véhicules se sont renforcés sur plusieurs axes routiers plus de 2 semaines après leur lancement. Les autorités parlent d'une opération de lutte contre les embouteillages, les faux documents et aussi pour améliorer la sécurité routière. Mais sur le terrain, chauffeurs et usagers n'ont pas toujours le même regard. Entre espoir d'ordre et dénonciation des abus, le débat reste ouvert. Nancy Tambo nous en parle.
Sur le grandes avenues de la capitale, les équipes de contrôle arrêtent taxis, bus et véhicules privés pour vérifier permis, assurance et carte grise. Du côté de l'association de chauffeurs, on reconnaît que l'ordre doit être rétabli dans les secteurs.
De notre côté, bien entendu, nous ne pouvons pas empêcher l'État congolais de faire le contrôle. De la manière, la promptitude ou les achats qui étaient dès le départ ne sont plus les mêmes, vu que les abus que nous reprochons dans le temps auprès de la PCR, les mêmes erreurs commencent à se répéter aujourd'hui face à quelques agents qui étaient déposés sur la chaussée.
Certains passagers, eux, dénoncent les embouteillages et les retards causés par ces opérations.
La résolution du problème des embouteillages ne sera jamais et jamais résolue jusqu'à ce que l'État mette en place une politique de multiplier des routes Et puis ça perturbe les programmes des gens, les calculs. Comme vous le savez, on vit dans un pays où, avec des calculs journaliers.
Les autorités promettent de maintenir la pression. Les chauffeurs et les usagers, eux, disent attendre non seulement des contrôles justes et transparents, mais aussi la réhabilitation rapide de plusieurs tronçons routiers en état de délabrement avancé.
Autre actualité, la société civile provinciale du Nord Kivu frappe à la porte de la MONUSCO. Nous sommes là à Beni. Elle plaide pour une présence accrue de la mission onusienne et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, spécialement dans les zones à forte tension, pour un meilleur suivi du cessez-le-feu entre les FARDC et l'AFC M23. Un cessez-le-feu qui a été décidé dans le cadre du processus de paix de Doha. Selon cette structure citoyenne, la multiplication de lignes de front dans les provinces du Nord et du Sud Kivu est l'un des défis qui exige une forte présence sur le terrain. Son président John Banyene précise que le respect du cessez-le-feu permettrait de soulager quelque peu la souffrance des milliers de déplacés. Il s'exprime au micro de Martial Papimukeba.
Pour nous, la population meurtrie du Nord Kivu, ça serait une bonne chose si cessez-le-feu pouvait être respecté. Ça pouvait permettre de déplacer, de commencer à rentrer chez eux avec cette accalmie qui pouvait s'observer sur le terrain. Mais nous sommes encore pessimistes parce que, à commencer par les Sud Kivu, là où ils sont, jusqu'ici au Grand Nord, les lignes de front sont vraiment multiples et on ne sait pas comment on va contrôler ce cessez-le-feu, surtout qu'il y a les Ouazalendou qui sont un peu partout, même dans les zones contrôlées par les M23. Et là, on s'est dit comment ce cessez-le-feu sera observé. Aujourd'hui, pour que ce cessez-le-feu puisse être respecté, avec le mandat actuel de la MONUSCO, il serait mieux à ce qu'on puisse renforcer les effectifs de la MONUSCO avec la collaboration de la CIRGM pour contrôler la faisabilité de ce cessez-le-feu.
Sécurité toujours, la coopération MONUSCO-Autorité du Nord Kivu a été au centre de l'échange entre le gouverneur de province et la chef de la police de la MONUSCO en mission dans la région. L'inspectrice générale Mamouna Ouedraogo a indiqué que cette collaboration sera renforcée dans les zones du Nord Kivu confrontées aux menaces sécuritaires afin de mieux protéger les civils et de renforcer les capacités des forces de la police locale. Elle est au micro de Marc Maroufimo.
Nous avons échangé essentiellement sur la collaboration entre la MONUSCO et les autorités provinciales. Étant de la police, la coopération entre la police de la MONUSCO et également la police nationale congolaise. Le partenariat que nous avons ensemble, comment renforcer ce partenariat. On collabore beaucoup avec la police dans cette zone-là parce que ce n'est pas seulement la défense, il y a aussi la sécurité. Nous avons des populations qui vivent dans des zones quand même stabilisées et ils ont besoin de services de police. Donc c'est dans ce cadre-là que nous apportons un appui à la police nationale congolaise en termes de formation, en termes de fourniture d'équipements d'investigation et autres, en termes de réhabilitation et de construction d'infrastructures dans le but de moderniser et professionnaliser la police nationale congolaise afin qu'elle puisse mener à bien ses activités de police.
Nous sommes dans le Haut-Katanga. Nous parlons de l'interpellation de 76 présumés criminels d'une femme hier mercredi par les services de sécurité. C'était au cours d'une vaste opération de bouclage. Cette opération a eu lieu dans la localité Tumbwe. C'est à 35 km de Lubumbashi sur l'axe Lubumbashi-Likasi. La police a procédé au tri des personnes interpellées. Après interrogatoire, les personnes qui ne sont pas impliquées dans des actes criminels seront relâchées, comme le dit Paula Munanga dans ce reportage.
Les forces de sécurité ont été déployées tôt le matin de ce mercredi dans différents endroits de la localité Tumbwe. Signalons parmi les éléments qui ont mené cette opération de bouclage, il y a des policiers, des militaires de la 22e région militaire et ceux de la garde républicaine. Ils ont procédé à des fouilles systématiques et des vérifications d'identité pour arrêter les individus soupçonnés des activités illégales. D'après la police, certains criminels ont l'habitude de se cacher dans cette localité après avoir commis leur forfait à Lubumbashi. Parmi ces 76 présumés malfrats, la police signale que certains sont impliqués dans des actes de banditisme urbain, notamment des braquages. D'autres sont des fugitifs liés à des réseaux de coupeurs de route, responsables de plusieurs embuscades visant des usagers sur des axes routiers stratégiques. Il y a aussi ceux qui seraient impliqués dans des vols de cathodes de cuivre. Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga Kanga, qui a supervisé cette opération, réitère son appel de la population à la vigilance et à la collaboration avec les services de sécurité. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Suite à la libération de 125 prisonniers du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, donc la prison de Makala, cette opération va se poursuivre. Elle n'a aucun rapport avec le choléra qui a lieu domicile dans ces lieux carcérales, puisque c'était une visite d'inspection de routine du procureur général de la Cour de cassation, Firmin Nfondé. Précision du parquet hier mercredi à Kinshasa. Et note aussi que cette décision de libérer les prisonniers de l'ex-prison de Makala concernait ceux qui étaient détenus irrégulièrement, c'est-à-dire pour des cas Bena. Question de désengorger cette prison. Écoutez la conseillère en communication et presse du procureur général de la Cour de cassation, Madame Sitou Zoulana, au micro de Lévin Bouinga.
C'était une routine qu'il a l'habitude d'effectuer lors de sa visite d'inspection au niveau du CPRK. Il a constaté qu'il y avait des détenus en situation irrégulière. Alors c'est ce qui a fait qu'il puisse libérer de ces 125 détenus et aussi une manière pour lui de désengorger la prison. Une manière pour lui de libérer des détenus qui ont été incarcérés pour de faits bénins.
Y a-t-il un rapport entre cette libération et le choléra qui sévit sur place?
Non, pas du tout. Le procureur général par la Cour de cassation, M. Firmin Vondemambou, avait eu une réunion avec les chefs d'office de Kinshasa, disons, les deux procureurs généraux de Kinshasa et le procureur de la République, donc ce sont des chefs d'office. À l'issue de cette réunion, il avait annoncé qu'il allait faire des visites d'inspection. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse se retrouver au niveau du CPRK et voir cette situation qui était au niveau du CPRK avec cette épidémie.
17 avocats à l'honneur à Kinshasa, la République démocratique du Congo a rendu hommage à ces touches noires qui se sont distingués par leur engagement et leur loyauté au cours de 25 années de service dans de nombreux procès d'intérêt national. La chancellerie des ordres nationaux leur a décerné la médaille d'or du mérite civique, une distinction qui consacre leur rôle essentiel dans la défense de la justice et des valeurs républicaines. Parmi ces chevaliers de la loi figure Maître Rufin Luko Moussabao. Reconnaissant pour cet honneur, il salue l'initiative de la République qui, à travers cette distinction encourage les hommes et les femmes de droit à poursuivre leur mission avec courage et intégrité. On écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous sommes très heureux parce que ça fait plus de 25 ans que nous exerçons cette profession de la défense des misérables, de la défense des victimes de l'arbitraire, de la défense des victimes de l'illégalité, de l'injustice. Nous avons prêté serment pour le faire conformément à la loi, dans le respect des institutions et de la Constitution de la République et dans le respect des droits de l'homme. Nous avons fait donc cette profession, nous l'avons exercée pendant plus de 25 ans et nous avons été ici avocats de la République, là-bas avocats des particuliers, là-bas avocats des artistes et musiciens comme le plus grand de notre pays, Koffi Olomide, Nyoka Longo et Ava et ses Taboulay Rochero. Nous avons donc exercé dans plusieurs procès de violences sexuelles où nous avons défendu les victimes, nous avons exercé dans les procès d'Icapène, nous avons exercé dans des grands procès du pays, pour ne citer que ce que je viens de citer là. Et donc la République nous poursuivait pas à pas pour arriver jusqu'à le couronnement d'aujourd'hui. Donc c'est une sanction.
Ah, sachez que cette décoration intervient 4 ans après une cérémonie du genre organisée en 2022 en faveur de 22 autres avocats congolais qui ont chacun reçu une médaille d'argent à l'époque. Santé avec cet appel à la solidarité en faveur des enfants atteints du cancer au Nord Kivu. Il a été lancé officiellement en mardi par l'évêque catholique Willy Ngumbi. Cette initiative portée par Wema Healthcare Initiative vise à mobiliser des fonds pour assurer la prise en charge médicale de ces enfants. Il faut dire aussi que cet appel s'inscrit dans le cadre de la journée internationale du cancer pédiatrique célébrée le 15 février de chaque année. Bernard Danyangi pour d'autres précisions.
Ce lancement marque également la clôture d'une première campagne de collecte de fonds initiée fin janvier par Wema Healthcare Initiative. Intitulée « Ensemble pour nos enfants malades de cancer », la campagne reste ouverte afin de permettre à toute personne de bonne volonté de contribuer. Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, insiste sur la nécessité d'une mobilisation collective.
Le cancer peut se soigner, mais ça demande des moyens. Comme vous avez entendu, ça coûte cher, au moins 4 500 $. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est lancer un appel. C'est l'union qui fait la force. Regardez ce que vous pouvez donner.
Depuis plusieurs années, l'organisation Wema a ouvert une unité d'oncologie pédiatrique au sein de l'hôpital La Charité Maternelle de Goma. Mais l'établissement fait face à d'importants défis matériels et financiers, particulièrement pour aider les enfants issus de familles vulnérables et atteints de cancer. C'est pour combler ce défi que l'association a choisi de lancer cette vaste campagne de solidarité.
Actualité internationale.
Trouble à l'université tchèque Antadiop au Sénégal, écartant l'hypothèse d'un décès consécutif à des violences policières. Le procureur de la République de Dakar a indiqué mardi qu'Abdoulaye Ba s'était tué en sautant par une fenêtre de sa résidence étudiante pour échapper à un incendie parti d'une chambre voisine. Une version des faits à laquelle la famille du jeune homme, comme les représentants des étudiants, ont du mal à souscrire.
L'invité.
18 février 2006 au 18 février 2026, 20 ans depuis la mise en application de la Constitution de la République démocratique du Congo adoptée par référendum et promulguée sous le régime de Joseph Kabila, ancien président de la République, les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont évalué la mise en application de cette Constitution 20 ans après. On les écoute au micro de Guy Maté.
Taylor Lubanga, vous êtes professeur et député national. Vous êtes également chargé des missions du chef de l'État et également cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Quelle évaluation vous faites de la mise en application de la Constitution de la RDC 20 ans après sa promulgation?
En effet, il est heureux de noter que la Constitution de la RDC, qui est passée par voie référendaire du 18 et 19 décembre 2005, était une réponse à un problème. Le problème de légitimation du pouvoir qui a entraîné des sous-questions de cohésion nationale, mais également de prise à répétition au niveau de la souveraineté du pays. Là, je vois les pays voisins. Et donc, il faut considérer que ce contexte a totalement réussi avec la Constitution, qui a été une réponse et qui continue à l'être, tout au moins, dans certaines ou dans ses principales articulations. Mais l'on peut se demander utilement si la lecture objective de son application 20 ans après n'appelle-t-elle pas certaines adaptations. Autrement dit, est-ce que cette constitution qui n'est pas une Bible répond-elle à toutes les questions de gouvernance moderne et donc de développement et du statut de ce que vaut la RDC au niveau de la région?
Et s'il faut répondre à cette question, qu'est-ce que vous diriez?
C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, il est nécessaire de regarder la réalité en face et de nous dire une seule vérité. Le temps a permis de réaliser les limites des cohérences constitutionnelles et légitime une révision de certaines dispositions capable de nous aider à évoluer. Je prends un petit exemple. Le scrutin d'un président de la République. Comment voulez-vous qu'un chef d'État soit élu par 25% des Congolais et dirige 100% des Congolais? Parce que le vote à un seul tour ne permet pas une forte adhésion des électeurs et des légitimations du pouvoir.
Clément Mouza, vous êtes avocat, vous êtes secrétaire national chargé de l'état des droits et justice du parti politique SID, parti membre de l'opposition et parti de la coalition Lamouka. Et vous également, comment vous évaluez la mise en application de la constitution de 2006, 20 ans après?
C'est un document que je considère comme sacré, qui a permis à notre pays d'avoir une certaine stabilité. Mais je pense que maintenant là, 20 ans après, parler notamment de la révision de la Constitution, par moment, j'ai dit que ce n'est pas aimer ce pays. Lorsque cette Constitution dit, à son article 219, qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, la loi fondamentale, la Constitution est claire sur ces points précis. Peut-être que les gens, et surtout ceux qui ont la passerelle du pouvoir, par rapport à certains appétits du pouvoir, pensent qu'il y a des choses qui peuvent être survolées. Non, nous sommes dans un état de guerre. Et l'état de guerre, en droit, est défini de plusieurs manières. Et l'état de guerre peut exister même à l'absence d'une déclaration de guerre.
Paul Gaspard Ngonankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Comment vous évaluez aussi la mise en application de la constitution de la RDC 20 ans après sa promulgation?
Il y a deux manières de faire le bilan d'un texte juridique d'une constitution. La première manière, c'est de faire ce bilan au regard des critères de son efficacité ou aussi de son efficience. C'est-à-dire, on regarde les objectifs qui lui ont été affixés et on évalue si ces objectifs ont été atteints ou pas. Alors, je n'aime pas trop faire ce genre d'exercice parce que il aboutit souvent à l'impasse parce qu'au final, il y aura toujours quelqu'un qui verra le verre à moitié vide et un autre qui verra le verre à moitié plein. Et donc, de ce point de vue-là, c'est tout difficile d'avoir un consensus. Il y a aussi parfois des causes qui sont liées au texte lui-même, mais beaucoup de causes sont liées aussi à l'homme congolais. Le texte peut être beau, mais s'il est appliqué par des personnes incompétentes ou de mauvaise foi, ben, il sera toujours critiqué.
Dialogue en congolais est à suivre en intégralité sur www.radiokapi.net, également sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Lievin Bwinga, mis en onde par Alain Goy. Merci à vous tous, vous toutes qui nous avez suivis. Passez une très bonne journée.